l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Avant-dernier jour de cette année 2025, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous. Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. On va véritablement voyager, se balader, puisque nous irons à Jérusalem dans un instant. Sœur Claire Emmanuelle est religieuse de Saint-Fray, une congrégation qui est née à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées. Elle est à Jérusalem, dans l'EHPAD de Notre-Dame des Douleurs, en plein centre de Jérusalem. Elle nous donnera des nouvelles. Elle sera au micro Rose Jankovic. Et puis après, Jérusalem direction New York avec le frère Charles Benoît qui est franciscain du Bronx. C'est l'occasion pour nous de mieux découvrir qui sont les franciscains du Bronx qui sont connus dans le monde entier. Le frère Charles Benoît nous livrera également son témoignage. Il était de passage dans le diocèse de Tarbes et Lourdes il y a quelques semaines. Il répondra aux questions d'Androse Jankovic. Et puis dans les balades en pays de Lourdes cette semaine, eh bien, on parlera des nombreuses personnalités qui sont venues à Lourdes. Sans oublier à 12h30 un point complet sur l'actualité régionale avec Louis Denneville qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour le sommaire de ce Présence Midi.
Il n'est pas où un enfant pleure, où la haine a cloué le cœur des hommes épris de vengeance. Je ne l'ai pas vu dans nos guerres, quelquefois pas dans nos prières, n'implorant qu'un peu de chance. Je ne l'ai pas vu souvent dans une main tendue cherchant à se mettre en lumière dans le flou qu'on tolère.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. On va voyager dans cette émission puisque nous partons à Jérusalem avec Andros Jankovic.
102.3.
Bonjour Sœur Claire Emmanuelle.
Bonjour Andros.
Vous êtes religieuse de Saint-Fray, congrégation née à Tarbes, mais vous nous parlez aujourd'hui depuis Jérusalem où votre congrégation a une maison, le Home Notre-Dame des Douleurs, un EHPAD, en plein Jérusalem. Et c'est là que vous vivez, c'est là que vous travaillez, c'est là que vous œuvrez. Alors, quelques jours après Noël, d'abord, il est encore temps, puisque nous sommes encore dans l'octave, de vous souhaiter un très bon Noël, Sœur Claire Emmanuelle.
Joyeux Noël Anne-Rose et joyeux Noël à vous tous. Et je vous dirai juste l'expression qu'ici on dit, c'est en arabe, Kousana enta salmi. Ça veut dire joyeux Noël, bonne fête à tous.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre justement un petit peu des nouvelles du Noël que vous avez vécu à Jérusalem. D'abord, est-ce qu'il a été possible de bien célébrer la naissance du Christ cette année à Jérusalem?
Oui, ça a été une année toute particulière, parce que donc depuis 2 ans, on fêtait Noël de façon très apaisée, sans grande festivité du fait des événements terribles qui se passaient à Gaza. Mais là, on a vraiment, les gens nous l'ont dit, parce que moi je n'y étais pas les années précédentes, que vraiment cette année, partout, on a pu fêter dignement et de façon festive et joyeuse Noël un peu partout en Palestine et ici aussi à Jérusalem.
Dignement, ça veut dire sans peur, en ayant la possibilité de chanter, de partager cette joie de la bonne nouvelle du Christ qui est né.
Oui, tout à fait. Il y a eu des incidents un peu avant, donc les gens ont craint parce que ça peut basculer d'un instant à un autre. Oui. Mais les gens ont pu rentrer dans Bethléem. Les portes étaient ouvertes au checkpoint. Il n'y a pas eu de gros problèmes pour pouvoir passer. Tous les groupes ont pu rentrer. Il y a juste quelques représentants qui n'avaient pas pu venir officiellement à la messe très grande et très festive à Bethléem. Donc les représentants du pays sont allés jusqu'à contacter Trump pour que l'accord de paix soit respecté, mais tout le monde a pu fêter et vraiment à Bethléem, on n'y était pas l'après-midi du 24, puisque ça se passait après toute la nuit, nous on était à la messe au Champ des Bergers, mais on a vu toutes les vidéos et tous les gens qui étaient, qui nous ont dit que vraiment c'était exceptionnel pour eux, c'était retrouver la vie qu'ils ont toujours connue et la joie de fêter la naissance du Christ telle qu'ils l'ont connue.
Est-ce que cette joie-là, elle peut rester, elle peut durer sur cette terre?
Alors, c'est un désir de chacun. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu vivre cet événement de façon plus joyeuse et plus festive, ça donne l'espérance que c'est possible. Ça donne regain aux gens et on se dit, on a envie toujours d'y croire. Même les gens le disent, même s'il y a un peu de défaitisme par rapport à certaines situations, ils se disent, bon, ça changera jamais. Mais ils ont toujours envie d'y croire. Ça les a relancés en fait. Ça les a reboostés, ça les a redynamisés pour faire appel aux gens, pour qu'ils viennent, pour qu'ils viennent les retrouver.
Cette fois-ci, ce qu'on entend, c'est qu'ils ont eu quelque chose dans leur cœur qui était plus fort que la peur, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. On avait déjà des groupes qui étaient là. Moi, j'étais à la messe au Champ des Bergers avec la communauté, avec les bénévoles, avec des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. On est partis tous ensemble avec beaucoup de bénévoles. Et c'est vrai qu'il y avait des groupes, beaucoup de groupes d'Asie, de Philippines, des États-Unis qui étaient là, beaucoup d'Américains. Et c'était incroyable parce que moi, c'était la première fois que je le vivais. Et quand nous, on chantait le Kyrie, on entendait des Gloria à côté. Quand on avait fini le Gloria et qu'on lisait l'écriture, on avait des Gloria un peu partout à côté. Donc, je me disais, mais quand on lit après l'office, le baptême de Noël et l'antienne, avec qu'avez-vous bu berger, qu'avez-vous entendu? Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, les anges qui chantaient. Mais je me dis, mais c'était tout à fait ça. On entendait les Gloria sur place. Donc c'est ce qu'ont vécu les gens et on sentait cette joie, oui vraiment cette joie. Les gens heureux même à Bethléem de nous accueillir, de nous voir.
Dans le dernier bulletin diocésain, on découvre un très long reportage que vous avez écrit pour nous, Sœur Claire Emmanuelle. On découvre la réalité, alors celle que vous décrivez pour Noël, on la pressent puisque cet article vous l'avez écrit quelques jours avant Noël, mais en tous les les cas, vous écrivez la réalité tous les jours, toute l'année, du Home Notre-Dame des Douleurs à Jérusalem. On découvre la vie des résidents dont vous prenez soin, votre vie à vous, communauté religieuse, la vie aussi de ceux qui travaillent. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de nouvelles dans cet article, dans son reportage? Vous nous parlez par exemple de Martha, une résidente, de Jeriz et Milad, qui eux travaillent, et puis de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, quelques jours avant la fin de l'année 2025, comment ça se passe, comment vont chacune de ces personnes?
Ils vont tous très bien, déjà. Je vais commencer par les personnes âgées, Anton et Martha. Anton n'avait pas vu sa famille depuis des années. Et cette année, ils sont venus le chercher pour passer le jour de Noël avec eux. Et donc, Anton était très, très heureux. Il est revenu très, très joyeux. Martha, elle a plus de famille concrète. Sa famille, c'est le homme. Donc, avec tous, le 24, l'après-midi, on a eu les pères des missions africaines, comme tous les ans, les séminaristes. Ils étaient 11 cette année. Ils sont venus. Ils ont chanté une messe un peu à l'africaine, on va dire, parce que c'était très, très mouvementé, très joyeux. C'était extraordinaire. La chapelle a été emplie de chants de Noël. Et après, on a des vidéos, ils ont distribué, ils se sont habillés en Père Noël, ils ont distribué les cadeaux de Noël à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y avait une liesse dans la maison, c'était extraordinaire. Et le lendemain matin, on leur a fait un petit déjeuner à la palestinienne, donc ils étaient encore dans la joie. Donc on a vraiment eu une vigile de Noël, un jour de Noël très très festif. Les familles étaient heureuses de venir, les bénévoles avaient tout décoré, c'était très très beau.
Il y a combien de personnes là en ce moment au Home?
Alors, personnes âgées 26, bénévoles on en a 5. On a Ruben et Emmanuel qui viennent de Lourdes. On a après un couple qui est là et une dame aussi qui vient de la région parisienne.
Et donc des bénévoles, vous arrivez à en avoir comme ça? La dernière fois que vous êtes venu nous donner des nouvelles, on présentait un peu cette crainte que les bénévoles ne puissent pas forcément toujours venir. Mais là, vous avez des bénévoles qui se relaient.
Oui, maintenant, en fait, on arrive à petit à avoir des bénévoles qui viennent. Bon, ils entendent déjà aussi que c'est possible. Et puis, comme on essaye de donner des nouvelles par rapport aux hommes, ils se rendent compte qu'on peut venir. Et entre eux, donc, on a créé un petit groupe WhatsApp où, justement, on fait passer des nouvelles. Donc, ils voient. Et puis, moi, j'essaye de les faire visiter les lieux en voiture pour que, du coup, ils se rendent compte qu'on peut aller et qu'ils relaient l'information. Donc, oui, là, c'est aujourd'hui, après la messe qu'on va avoir, on va aller chez les dominicains. Ils vont nous montrer leur grande bibliothèque. Cet après-midi, on va aller voir les sœurs Clarisse. Et demain, on va à Nazareth. Voilà. Donc, c'est aussi leur permettre de voir les lieux et de pouvoir diffuser qu'on peut faire des choses.
Alors, il y a aussi les employés dont vous parlez dans votre reportage. J'y reviens parce que c'est quelque chose de très poignant quand on lit l'épopée qu'ils accomplissent chaque jour pour venir vous rejoindre. C'est assez extraordinaire, surtout quand on lit ça depuis notre vie assez confortable en France. On se dit, bon sang, qu'est-ce que vivent et traversent ces gens-là, traversent même physiquement, puisque les frontières, les barrages, les contrôles d'identité, quel courage ils ont. Quel courage.
Vraiment, juste deux, c'est toujours dans la ligne de ce que j'ai dit l'autre jour, deux événements. Là, quelques temps avant Noël, il y a eu près de Ramallah des attaques. Une employée, Hanan, dont je parle là, qui est infirmière, elle venait le matin pour Rome et elle s'est retrouvée dans l'espace juste au niveau du checkpoint. Il y a eu des attaques avec des pierres qui ont été jetées par les Palestiniens. Et il y avait une dizaine de bus d'Israéliens, militaires et policiers, qui ont jeté des bombes lacrymogènes. Elle s'est retrouvée là. Elle a eu la peur de sa vie parce que même dans le bus, la fumée des bombes lacrymogènes était là. Elle est revenue dans un état pas possible. Elle est restée plus de 2 heures coincée dans ce bus-là au niveau du checkpoint. Elle a dit combien c'était terrible. Et c'est elle qui m'a annoncé qu'à Jenin, le petit village pas très très loin de chez elle, ils avaient brûlé le sapin de Noël qu'ils ont replanté le lendemain, évidemment en signe comme quoi c'était Noël et que pour eux c'était important. Et malgré tout, elle est venue au Rome le lendemain matin. Elle est repartie plutôt en espérant pouvoir arriver à rentrer chez elle et à revenir les jours suivants. Donc c'est pour dire que ces gens croient, ces gens ont la foi, mais ils vivent des situations terribles. Hier, nous sommes allés à Bethléem et on est allé voir Milad, dont je parle dans l'article.
Et donc,
c'est sa femme qui nous pilotait dans Bethléem. Et elle nous a invités. Alors, on a dit, c'est Noël, on va aller les voir. Donc, on est allé avec trois bénévoles. Donc, ils nous ont accueillis, les enfants adorables, comme tous les petits-enfants. Heureux de nous vouloir nous offrir les petits gâteaux qu'ils avaient faits pour Noël. Ils se dépêchaient pour vous voir, tellement ils étaient contents de voir du monde. Ils attendaient, le petit, le dernier, il disait à son père qu'il attendait hier toute la journée que du monde vienne pour pouvoir donner quelque chose. C'était trop beau, c'était trop mignon. Donc là, il se chamaillait pour pouvoir tous donner quelque chose. C'était incroyable. Et du coup, il nous a montré, ils sont bien situés à Bethléem, il nous a montré de sa fenêtre, Milad, comment en fait, en bas de chez eux, on voit une route magnifique, bien grande. Et en fait, cette route, elle sépare Bethléem d'une colonie. Elle est réservée aux Juifs pour qu'ils puissent aller dans cette colonie. Et donc, ça vous fait quelque chose de vous voir ce paysage. On disait, le paysage est magnifique, c'est beau, et la réalité nous rattrape. Et après, ils nous ont dit, si vous voulez, on part avec vous, parce qu'on va vous amener au checkpoint, on va y aller avec vous. Mais nous, on vous laissera, parce que nous, on doit laisser notre voiture et on doit passer à pied. Donc, vous avez ces petits-enfants, tout petits, qui ont la naïveté et l'innocence de l'enfance, qui sont déjà plongés dans cette réalité.
Qu'est-ce qui les fait tenir, ces gens-là? Où est-ce qu'ils puisent l'énergie, la force?
La foi. Vous verriez chez eux comment tout est dit pour Dieu. Et il a dans cet appartement, juste en dessous, il y a les parents qui vivent, il a son frère qui est handicapé, qui habite là aussi. Il n'y a que lui qui travaille, qui ramène un salaire et il fait vivre toute la famille en fait. Mais ils étaient heureux, vous ne pouvez pas imaginer. Il m'a dit, comme je suis heureux que vous puissiez venir chez nous.
Quel avenir vous percevez pour ces familles-là?
Je sais pas trop. C'est pas très optimiste, en fait, parce que quand on voit que les taux se resserrent systématiquement...
Ces enfants dont vous nous parlez, ils vont voir quoi dans leur vie?
On voit déjà ce que j'ai eu peut-être raconté d'autres fois, mais on voit que quand ils sont étudiants, qu'ils doivent passer les checkpoints, ils voient aussi de l'agression et ils ont envie de vivre ce que les parents leur ont annoncé. Parce que là, quand je voyais ces enfants dans leur famille, je vois mes neveux et nièces, je vois mes petits-neveux et mes petites-nièces, je vois cette même vie de famille qu'on peut avoir en France. Il n'y a que la langue qui nous sépare. Mais en fait, on vit cette même amitié familiale, cette même foi dans l'autre, cette même amour de l'autre, on le vit. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que les gens partent. Les gens partent. Et ils ont de moins en moins de travail. À Bethléem, je me souviens, quand j'y avais été, c'était vers 2009 ou 2000, après quand j'étais revenue, il n'y avait pas autant de mendicité. Là, quand on est parti hier, on a attendu plus d'une heure au checkpoint. Et pendant cette heure, on avait un petit garçon qui vendait des bonbons. On en a acheté. Pas parce qu'on avait envie d'en manger, mais on en a acheté. Et il était trop content. On lui a donné peut-être 30 fois le prix de ce que c'était. Mais il n'a pas arrêté de dire merci. Et vous vous dites, mais quoi alors? Mais c'est quoi la vie comme ça? C'est pas la vie, cet enfant qui fait ça. Il n'y avait pas autant de mendiants avant. Là, dans les rues, c'est impressionnant la mendicité, la précarité. Même plein d'endroits où c'est insalubre. Et les gens de Bethléem le disent, il y a moins en moins de travail.
Donc il y a des familles qui vivent plus ou moins dans la rue avec de jeunes enfants.
Oui.
Ma dernière question, avant de vous libérer, Sir-Pierre Emmanuel, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire depuis chez nous, depuis la France, les auditeurs de Radio Présence là, qui entendent aujourd'hui cette interview, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous allez sûrement nous dire la prière, mais est-ce qu'on peut faire plus que la prière?
Alors déjà, la prière, c'est important, parce que je reviendrai sur Milad, quand on a fêté Noël avec eux aussi, parce qu'avant que le chantier se ferme pour Noël, on a fait un repas avec eux, on a voulu tous les ouvriers, les inviter, on a fait un repas avec eux. Et alors, moi, pour les enfants, j'avais fait des petites choses. Et il m'a dit, je prie pour vous. Il m'a dit, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, prier pour nous. On n'entend pas, enfin, moi, j'entendais pas autant ce désir de prière et cette joie d'entendre que les gens prient pour nous, quoi. Mais après, c'est vrai, il y a des associations qu'on connaît en France, comme Caritas, je vois qu'ils sont très à l'œuvre ici. Même nous, ils nous aident beaucoup, parce que la maison aussi n'a pas beaucoup de moyens. Mais Caritas, c'est une organisation qui aide beaucoup ici en Orient. L'œuvre d'Orient, on a le nouveau responsable, Monseigneur Voilhomme, qui est venu ici. On a eu une rencontre avec tous les religieux au consulat. Le 23, on s'est tous retrouvés. Il est là, il est juste venu pour passer Noël ici en Terre Sainte, puisque c'est sa nouvelle mission. Et il racontait tout ce que moi j'ai pu échanger un peu avec lui, avec un évêque qui représentait la conférence des évêques de France, qui est venu aussi. Et il disait tout ce qu'il faisait pour l'Orient. Donc ces deux associations sûres qui aident vraiment les chrétiens d'Orient et qu'on connaît, qu'on peut rejoindre, enfin il y a différents moyens pour pouvoir les rejoindre. Et financièrement, on peut aider.
Merci beaucoup, Sœur Claire-Emmanuelle. On vous laisse retourner à vos nombreuses activités à Jérusalem auprès des personnes âgées dont vous prenez soin. Merci de nous avoir donné des nouvelles, en tous les cas, de ce lieu vraiment.
Et c'était un lieu de joie,
on l'entend, de fraternité, puis vraiment de charité. Merci beaucoup pour ces nouvelles.
Merci beaucoup à vous et puis joyeux Noël à tout le monde.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic qui a réalisé donc ce duplex avec sœur Claire-Emmanuelle, hein, vous l'avez compris, hein, qui est religieuse de Saint-Fré, cette congrégation qui est née dans le diocèse de Tarbes et Lourdes à Tarbes. Elle était en duplex donc depuis Jérusalem à l'EHPAD de Notre-Dame des Douleurs. Dans un instant, on va changer de pays puisque nous partirons à New York avec le frère Charles Bonneau qui est franciscain du Bronx. Il nous dira qui sont les franciscains du Bronx qui sont connus dans le monde entier. Ils seront de nouveau au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Présence.
Sans oublier dans un instant à 12h30 le journal régional qui sera présenté par Victor Vignier qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christian, fearful sinners hear the silent word is pleading. Nails, spear shall pierce him through, the cross be borne for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, peasant king, to own him. The King of Kings salvation brings. Let loving hearts enthrone him. Raise, raise the song. Son of me. the babe, the son of Mary.
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence et de Présence Midi. Dans un instant, on va écouter le témoignage du frère Charles Benoît qui était de passage dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Le frère Charles Benoît est franciscain du Bronx. On va l'écouter dans un instant au micro d'Anne-Rose Jankovic. Mais pour le moment, on retrouve Victor Vignier de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse pour le journal régional à la mi-journée.
Un feu de poubelle a obligé 6 sapeurs-pompiers à intervenir dans le Gers. C'est sur la D1021 au niveau de la commune de Villecomtal-sur-Arros que l'incendie s'est déclaré et a fini par toucher un radar routier. Personne n'a été impacté par ces incendies et le feu a pu être maîtrisé. C'est sur la RN20 que les mobilisations agricoles ont repris en Ariège hier. Le tunnel de Foix est donc fermé en attente des avancées des manifestations. Cette fermeture oblige les véhicules à emprunter la sortie 10. Foix connaît donc une affluence bien plus forte que d'habitude. La coordination rurale montre son mécontentement suite aux déclarations de l'État concernant la gestion de la crise de la dermatose nodulaire. Des drones vont être utilisés pour surveiller la nouvelle manifestation des agriculteurs dans la Haute-Garonne. Le recours à ces engins volants a été annoncé par Pierre-André Durand, préfet de région Occitanie, en raison d'un blocage fragmentaire de l'A64 par les ultras de l'A64. Assurer la sécurisation, voilà les mots du préfet pour expliquer l'utilisation de ces drones pour le blocage de l'autoroute par le mouvement agricole. Un accident dans le Tarn a fait 2 blessés dont un grave hier. La collision a eu lieu au niveau du lieu-dit en Rossignol sur la RD50. Une camionnette et une voiture se sont percutées. Tandis que le blessé léger a été évacué à l'hôpital de Castres, c'est au centre hospitalier de Purpan à Toulouse que le blessé grave a été transporté. Pronostic vital engagé pour un passager d'une Porsche qui a heurté une maison dans le Tarn-et-Garonne hier. L'accident a eu lieu sur la RD50. La conductrice de 26 ans a été transportée à l'hôpital de Montauban. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le passager de 31 ans, lui, a dû être héliporté vers l'hôpital de Purpan à Toulouse en raison de la gravité de son état. Suite à des inquiétudes sur l'état des ordinateurs dans l'école de Robert Fabre à Villefranche-de-Rouergue, une cagnotte a été lancée. Malgré des investissements déjà effectués par la mairie en juin 2025, le problème n'est pas totalement résolu. Alors que des enseignantes, assistantes et élèves étaient préoccupés par la situation, une cagnotte litchi a été mise en place par les parents d'élèves, dont Teddy Sokambi, qui est membre du parti d'opposition lors du conseil municipal. Un nouveau groupe de musique spécialisé dans le jazz s'est formé dans le Lot. Leur nom, Jazzolt. Le groupe est composé de 5 musiciens, dont le directeur de l'école de musique de Préissac, Jean-Marc Dejean. Ils donneront leur premier concert le samedi 3 janvier dans la commune lotoise de Préissac. L'événement musical se déroulera dans le restaurant Le Baïa.
Merci. Victor Vignier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Au prochain point sur l'info sur notre antenne à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
À la suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence.
Bonjour frère Charles Benoît.
Bonjour Anne-Rose.
On est très heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Présence à Lourdes. Vous êtes franciscain du Bronx et vous allez aujourd'hui nous parler de votre vie, de votre mission. Qui sont les franciscains du Bronx connus dans le monde entier? Qui êtes-vous, vous frère Charles Benoît? Comment vous êtes tombé dans cette marmite franciscaine, si je puis dire? Et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le diocèse de Tarbes et Lourdes? Vous allez nous dire tout ça aujourd'hui. Alors d'abord, on va commencer par le tout début. Les franciscains du Bronx, alors c'est un nom qui est connu dans le monde entier, mais en fait votre vrai nom c'est franciscain du renouveau. C'est peut-être bien de commencer par ça déjà.
Voilà, c'est bien souvent il y a un petit peu de confusion, mais c'est aussi ce nom de franciscain du renouveau peut porter à confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire qu'on est en lien avec le renouveau charismatique, alors que non, l'idée en fait c'est de reprendre une parole de Saint François qui sur son lit de mort a invité ses frères à commencer à nouveau. Elle dit, frère, commençons à nouveau, parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait que très peu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer une nouvelle vie, une nouvelle, une nouvelle manière de vivre avec le Christ?
Bah voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est ne jamais se considérer arrivé et constamment rechercher à se renouveler dans notre relation au Père, en fait.
Alors, si les franciscains du renouveau sont appelés franciscains du Bronx, c'est parce que le Bronx, c'est un nom d'un quartier de New York très pauvre, dans lequel votre communauté, votre congrégation s'est installée. Alors, qu'est-ce que la congrégation est allée faire dans ce quartier-là qu'est-ce qu'elle y a vécu? Alors, il faut dire aussi, mais vous allez nous l'expliquer, que les franciscains du Bronx, ils ne vivent pas que dans le Bronx.
Voilà. Donc, le Bronx, c'est là où on a commencé. Ce sont 8 frères capucins de New York, New Jersey, qui ont le désir de retrouver une vie auprès des populations les plus pauvres.
Donc là, on est au début du 20e?
Donc là, c'est en 1987.
Oui, plutôt fin du 20e.
Donc voilà, il y a 38 ans. Et ils sont allés voir l'archevêque de New York, qu'ils connaissaient très bien, qui leur a dit « Ah bah enfin, vous vous décidez
!» Ah, ils étaient attendus.
Bah voilà. Ouais. Et donc, il leur a confié une église d'une paroisse qui venait d'être fermée, en disant « Bah voilà, je mets l'ancien presbytère à votre disposition ». Et ensuite, il y a eu l'école primaire attachée à la paroisse et le couvent des sœurs qui s'occupait de l'école qui a fermé aussi et qui a été mis à la disposition. Donc, c'est vraiment là où on a commencé. La nouvelle communauté s'est forgée.
Avec tout à faire.
Et voilà, exactement.
Ou à refaire.
Voilà. Donc, 8 frères. Il y a un frère quand même qui était un petit peu le catalyseur, qui connaissait tous les autres et qui les a fédérés. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et donc, il a fallu qu'ils quittent les Capucins pour créer quelque chose de nouveau. En fait, notre habit, c'est l'habit capucin, avec un petit détail, c'est que c'est pas la même couleur. On a un habit gris, qui est la couleur des missionnaires. C'est pour ça que le surnom des franciscains dans le monde anglophone, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande, ce sont les frères gris. Et si on va en Californie, dans toutes les missions franciscaines, les frères, sur les statues, les tableaux, les frères sont en gris. Et donc on a retrouvé, c'est pour ça la couleur des missionnaires.
Et ça c'est important.
Bah, oui, parce que ça fait partie de nos charismes.
Alors justement, frères missionnaires, c'est quoi au fond votre mission? Quand on s'installe comme vous l'avez fait en 1987 dans un quartier où il y a tout à refaire, certainement pas que la vie paroissiale, on commence par quoi? On a quel objectif? Comment on met un cadre? Est-ce qu'à ce moment-là, on sait où on doit aller?
Alors, une particularité, justement, c'est que c'est pas nous nous occuper de la vie paroissiale. On ne s'occupe pas de paroisse.
Donc vous occupez de la vie de tous les jours, mais pas de la vie de la paroisse.
On n'est pas responsable d'une paroisse.
Donc vous n'êtes pas curé, en fait.
On n'est pas curé, et ça c'est très clair dans nos textes, c'est à 2 ou 3 endroits différents, nous ne prenons pas de paroisse.
Pourquoi c'est important, ça?
Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, le fait de prendre une paroisse peut avoir un impact très important sur la vie fraternelle. Et notre vocation, c'est pas d'être berger, notre vocation, c'est d'être frère. Et ça, c'est différent. Et donc, notre premier témoignage, notre première mission, hormis la vie de prière qui est première, ensuite, c'est notre vie fraternelle. C'est de vivre en tant que frère et de témoigner, donc en tant que religieux, mais encore plus en tant que religieux franciscain, on est appelé à avoir un témoignage prophétique de la vie à venir.
Donc, si je vous suis bien, votre première mission, c'est de vivre entre frères et d'être vraiment un témoignage de cette vie fraternelle que vous avez entre vous, avant d'être frère avec ceux qui vivent autour de vous, quoi.
Exactement. Mais ça, c'est important parce que du coup, quand on parle aux jeunes de nos quartiers difficiles, qui ont l'expérience de vie familiale chaotique, avec des familles déconstruites, reconstruites. Quand je suis arrivé dans le Bronx, j'ai eu l'impression que tout le monde était demi-frère, demi-sœur, cousin, cousine, les uns des autres, parce que c'est tellement éclaté dans tous les sens.
Donc la première pauvreté, c'est ça, c'est celle d'une famille détruite.
Oui, oui. Mais du coup, quand on leur parle de pardon, etc., quand on leur parle, ça porte parce qu'ils nous voient vivre ensemble, avec quand même, ils perçoivent quand même des grandes différences de personnalité, d'origine, ne serait-ce que de nationale, mais aussi sociale, etc. Et ils voient que malgré tout, on arrive à s'entendre et à être frères les uns les autres et ne pas s'entretuer. Et donc du coup, quand on leur parle de pardon, de s'aider les uns les autres, ça apporte un petit peu plus parce qu'ils voient que on le vit.
Quand vous dites quartier difficile, alors on entend les difficultés familiales, mais c'est quoi un quartier difficile ?
C'est ce qu'on appellerait des ZUP en France, je crois, ou peut-être que ça a changé depuis, parce que ça fait 23 ans que je suis parti de la France, donc mais des zones urbaines populaires, c'est-à-dire des zones où il y a des populations ayant un fort pourcentage de chômage ou bien des métiers qui avec des salaires très très bas, donc quand même des cités HLM, enfin c'est ce genre de quartier là. Donc avec cette difficulté familiale, il y a les difficultés économiques, éducatives.
Enfin, donc ça veut dire l'accès à l'école ou...
Voilà, il y a tout plein, toutes ces choses-là qui sont ensemble. Donc c'est aussi des quartiers où il y a pas mal de violence. Sur New York, ce sont des quartiers où les gangs sont quand même omniprésents. Oui.
Donc il y a la drogue, la prostitution, la violence, voilà, le trafic d'armes peut-être, ou des genres de choses.
Voilà. Oui. J'ai entendu des coups de feu dans la nuit, enfin... pas très régulièrement, mais c'est arrivé. Et j'ai passé 2 ans après la formation initiale, je m'occupais des enfants du quartier, et quand ils arrivaient, que je voyais qu'ils avaient les valises sous les yeux, je dis « Oh, t'as pas bien dormi toi l'année dernière ?»« Ah bah oui, non, ils ont pas arrêté de se tirer dessus encore la nuit dernière. » Donc voilà, c'est vrai que il y a de la violence, la guerre des gangs, ça existe. J'avoue que j'ai découvert un petit peu ça parce que, ayant grandi en Normandie, dans une petite ville de 18 000 habitants, c'était.
Alors justement, c'est ça. Alors on reviendra sur votre parcours en deuxième partie de l'émission, mais quand même, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir. Au fond, là, je vous vois en face de moi, frère Charles Benoît, vous êtes tout souriant, vous avez l'air en pleine forme, et on se dit, mais qu'est-ce que des frères vont chercher ou dans des lieux comme ça? Au fond, quand vous êtes face à cette immense misère ou cette détresse même, à 8 ou 9 ou 10, je ne sais pas combien vous pouviez être au maximum de frères, mais c'est une goutte d'eau face à un océan de détresse, quand même.
Oui, mais en même temps, il y a un effet multiplicateur. Donc, c'est-à-dire, on s'occupe de quelques personnes, mais leur vie transformée rayonne et transforme d'autres vies également. Donc, et on ne mesure pas, heureusement, finalement, on ne mesure pas l'impact qu'on peut avoir. Mais donc de vivre auprès des populations les plus pauvres et d'essayer de remédier à certains des problèmes, c'est en fait remédier à des, enfin comment dire, notre apostolat, il y a un aspect matériel. Donc on a un foyer d'accueil pour sans-abri à New York, on a des soupes populaires, un centre d'accueil pour les enfants du quartier pour des activités, soutien scolaire, choses comme ça. Mais toutes ces choses matérielles, c'est un prétexte pour être en contact avec ces populations, de manière à pouvoir témoigner. Alors, pour moi, si j'ai à résumer en une phrase la spiritualité franciscaine, c'est être témoin joyeux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ça résume un petit peu notre but, c'est d'amener les gens à faire l'expérience de l'amour du Père pour eux.
Et ça, c'est possible partout. Partout, il y a un terreau qui peut être fertile, sur lequel peut émerger l'amour de Dieu, vraiment.
Ah oui. Quand j'étais dans le Bronx, il y a un garçon qui est arrivé. Donc tous les samedis soirs, on avait un gymnase et donc portes ouvertes, les jeunes du quartier pouvaient venir passer la soirée pour s'amuser simplement. Règle très simple, se respecter les uns les autres. Donc ça veut dire pas d'injures, pas de bagarres. Et la règle la plus importante, s'amuser. Et un jour, il y a un garçon de 9-10 ans. Faut s'imaginer Mike Tyson en miniature. Et il est arrivé avec l'esprit de la rue, c'est-à-dire on ne se laisse pas marcher sur les pieds, enfin, etc. Et quand il est... Donc, son attitude était, correspondait à ça. Et donc, très rapidement, il a fallu que je lui demande de partir. Parce que forcément, bah, quand on a cette attitude-là, bah, on arrive à, au moins se chamailler verbalement. Mais pour être... il a toujours accepté la... les conséquences de ses actes. Donc, il ne s'est jamais rebellé contre le fait que je lui demande de partir. Par contre, chaque semaine, il restait plus longtemps. Jusqu'au jour où il a réussi à rester jusqu'à la fin. Et là, j'étais impressionné. Et dès qu'il est sorti, il s'est mis à se bagarrer avec un autre garçon qui était là ce soir-là.
Il explosait. C'est la cocotte minute qui...
Donc, je les ai séparés. Ils sont allés à l'autre bout du pâté de maison. Je les ai suivis. Je les ai reséparés à nouveau. J'ai dit à l'oncle de l'autre belligérant, qui était juste un ado, qui était là ce soir-là avec nous aussi, « Allez, tu le ramènes à la maison. Il est l'heure de rentrer. » Et j'ai dit à le mini Mike Tyson, son prénom c'est Lolo. Je dis « Lolo, il est l'heure de rentrer. » Faut savoir que Lolo n'a jamais connu son père et vivait avec sa maman qui se droguait et se vendait pour pouvoir payer la drogue, en gros. Donc, il n'était pas le bienvenu à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'il passait le plus clair de son temps dans la rue avec les copains. Donc, Lolo s'en va. Quelques minutes plus tard, j'entends une voix stridente. C'était la maman de Lolo qui cherchait l'autre garçon pour lui régler son compte à sa manière. Il est où ? Il s'appelle comment ? Où habite-t-il ? Et quand elle a compris que personne ne répondrait, elle s'est retournée vers son fils avec une litanie d'injures. T'as encore posé des problèmes, je vais te mettre la tête au carré, tu vas voir ce que tu vas prendre quand on rentre. Et encore, je dis ça très correctement, comparé à son vocabulaire. Et là, j'ai voulu intervenir pour lui montrer que Lolo avait fait d'énormes progrès. Et qu'en fait, oui, il y avait une bagarre, mais qu'il n'avait pas posé de problème toute la soirée. J'ai pas pu dire plus de deux mots. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est tournée vers moi, elle m'a fusillé du regard, littéralement. Et elle m'a dit, toi le moine, ta gueule, rentre dans ton couvent, la messe a dit, je veux pas t'entendre. Et encore, je dis ça d'une manière correcte. La traduction là est édulcorée, on va dire. Et donc, elle m'a coupé le sifflet. Et la seule chose que j'ai pu dire, en regardant Lolo directement dans les yeux, et je dois dire que... quand elle a parlé, j'ai vu une transformation, j'ai vu Lolo, son visage se transformer avec un mélange d'effarement et de profonde tristesse. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est de lui dire directement en le regardant dans les yeux, Lolo, j'ai essayé, Lolo, j'ai essayé. Donc ça, c'était samedi soir. Le lundi après-midi, il vient au centre à l'heure du soutien scolaire. Alors, il allait à l'école. Mais de là à faire ses devoirs et venir au soutien scolaire, faut pas exagérer quand même. Donc c'était la première fois qu'il faisait ça. Donc je dis, tiens. Et la première chose qu'il a demandé, ça a été de me parler. Donc je me suis assis avec lui et j'ai entendu un petit bonhomme de 10 ans me dire, je suis venu pour m'excuser de ce que ma maman t'a fait. Je connais Jésus, elle ne connaît pas. Et elle n'a rien ni personne pour l'aider. Donc, un petit bonhomme de 10 ans qui prend la responsabilité d'action, des actes d'un
qui
adulte.
Qui assume, oui. Ouais. Qui assume à la place de l'adulte.
Exactement. Mais, en plus, qui me parle d'un Jésus, et sa manière d'en parler, c'est pas « je connais des choses à propos de Jésus ». Non, non, il m'aide. Et elle ne le connaît pas. Et je me suis posé la question, comment Lolo a fait la connaissance de Jésus ? Et en fait, c'est simplement en venant au centre... où on lui a permis d'être un enfant de 10 ans, où il n'avait pas besoin de regarder par-dessus l'épaule pour voir s'il y avait quelqu'un qui était prêt à le tabasser ou quoi que ce soit, et où il avait le temps de pouvoir être vraiment un enfant et jouer. Et on le faisait simplement au nom de Jésus, vu qu'on commençait simplement avec une petite prière genre bénédicité, mais pas pour la nourriture, mais de bénir le temps, les jeux, etc. Donc il savait qu'on le faisait au nom de Jésus.
Comme il avait du temps, il avait aussi du temps pour ouvrir son cœur.
Ben voilà. Donc, je raconte un petit peu cette histoire parce que je pense que ça illustre bien, en fait, le cœur de nos apostolats. C'est pas forcément des grandes choses flashy, mais par des petites choses, un contact régulier, pas forcément quotidien, mais au moins une fois par semaine, ou enfin, voilà, forger une relation. et à travers ça, sans forcément prêcher la bonne nouvelle, mais simplement en la vivant,
oui.
Eh bien, les gens qu'on sert le perçoivent.
Un grand merci à vous, frère.
Merci beaucoup, Anne-Rose.
Présence à Millau 106.5.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
De nombreuses personnalités sont venues à Lourdes. Bonjour Elaya.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et à travers ces personnalités, eh bien, vous avez décidé de nous proposer une sélection.
Eh oui. Donc on va commencer par Zac Efron, donc l'acteur américain qui est venu en septembre 2018 pour tourner un épisode de la série documentaire Netflix Down to Earth qui était dédié au mode de vie plus sain et plus durable. Donc lors de cet épisode tourné à Lourdes, l'épisode a mis en avant l'eau et sa dimension et la dimension spirituelle du lieu. Donc Zac Efron a pu y rencontrer le père James Fallon puis le docteur Alessandro De Francisci, chargé d'authentifier les guérisons inexpliquées. Donc on le voit découvrir le sanctuaire, visiter la grotte et participer à une veillée.
Donc Zac Efron est venu en septembre 2018. 2018, autre année où une autre star internationale est venue à Lourdes, c'est Morgan Freeman.
C'est ça, donc il est venu en octobre 2018 pour tourner un épisode de la série The Story of God, une série documentaire consacrée aux religions du monde. Donc à Lourdes, il a pu visiter la grotte de Massabielle et rencontrer Bernadette Morio, la 70e miraculée officiellement reconnue. Donc elle a pu lui raconter son histoire et sa guérison, pardon. Et Morgan Freeman est accompagné par Monseigneur Xavier Darod, responsable de la pastorale internationale, qui a pu lui expliquer la spécificité du lieu.
Voilà donc pour les personnages qui nous venaient des États-Unis. Retour en France avec également des films qui ont été tournés plus spécialement dans la ville de Lourdes.
C'est ça, donc Lourdes a pu inspirer le cinéma français. En 2021, Maïwenn et Josiane Balasko ont tourné une comédie musicale, Tralala, qui a été réalisée par les frères Larieux, eux-mêmes nés à Lourdes. Donc le film suit un chanteur vagabond que l'on prend pour un fils disparu et qui se laisse entraîner par cette nouvelle identité. Donc cette œuvre poétique et décalée montre un Lourdes artistique et moderne.
Autre personnage connu, c'est Gad Elmaleh qui est venu à Lourdes pour les besoins d'un spectacle.
C'est ça, donc il est le coproducteur de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, un spectacle qui est né en 2019 avant d'être joué à Paris en tournée. Mais Gad Elmaleh a aussi pu évoquer Lourdes lors d'un film, donc c'est Reste un peu, où il explore sa quête spirituelle et son attachement à la Vierge Marie, ce qui crée un lien naturel avec l'histoire de Lourdes.
Voilà pour une sélection de personnages célèbres qui sont venus à Lourdes et qui ont séjourné quelque temps à Lourdes. C'est Elaya de l'Office de tourisme de Lourdes que je remercie qui nous a fait cette sélection. On se dit à très bientôt pour une nouvelle balade en pays de Lourdes.
À très bientôt, merci.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, he was the sins away.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'état d'urgence décrété au Yémen après les avancées des rebelles séparatistes, l'Arabie